Déjà
ça, je suis d'accord.
Et ben, un challenge par mi-temps.
Un challenge par mi-temps et la sonorisation des arbitres.
Voilà, et ben, un challenge par mi-temps, le stade de Reims gagne 2-1.
Mais attention au challenge par mi-temps, est-ce que le challenge, tu le récupères partout, si tu le gagnes, et est-ce qu'il
alors,
est valable
hein. Tu fais
mais
comment t'es valable. Le pénalty sifflé n'est pas un pénalty marqué, demandez à
Marc d'écouter. Mais est-ce qu'il est valable dans les cas de figure de la VAR aujourd'hui? Parce qu'il ne faudrait pas que le challenge
évidemment,
remplace la VAR.
Mais au moins, ça donne quand même possibilité de marquer un but, enfin, potentiellement.
Mais t'as un problème, avec ça. C'est, est-ce que ça vient remplacer aujourd'hui la VAR dans cette situation telle quelle avec les situations à la surface? Non, ou ça rajoute
ça
les cas de figure?
Ah bah pour moi, ils sont en plus.
Ça doit
parce
la compléter.
Que ça rajoute un cas
parce que c'est déjà le cas de figure aujourd'hui. La VAR, normalement, est censée intervenir dès qu'il y a potentiellement un carton rouge.
Non, mais ça doit compléter la
VAR. La VAR doit intervenir
pour avoir des explications supplémentaires.
En cas d'erreur manifeste de l'arbitre, dans des situations bien précises, que sont l'exclusion d'un joueur, un pénalty ou un but refusé.
Manifeste. À un moment, dès que tu vois qu'il y a potentiellement un doute, tu dois la saisir. C'est ça justement la nuance. Pour moi, il ne faut pas qu'il y ait une erreur manifeste. Il faut qu'il y ait le moindre doute. Mm. Et le moindre doute, tu l'utilises, la VAR.
Mais le problème, c'est que à
surtout
ce moment-là,
la VAR,
un match de 90 minutes, il dure 3 heures.
Mais des fois, la VAR, il l'utilise derrière. Quand l'action continue de jouer, il y a toujours une petite équipe à la VAR où il y a toujours un mec qui regarde le match et l'autre qui est en train de visionner l'action. Ils le font en permanence derrière.
Moi, je préfère qu'un match il dure 10 minutes de plus et qu'on ne soit pas.
Bah, compte tenu des enjeux aujourd'hui, effectivement, les enjeux nécessitent ça. Juste, il est 20h01. J'ai une question à vous poser, les amis. Il y a Lens-Reims vendredi parce que les débats arbitraux ont nécessité une exclusion côté strasbourgeois, mais c'est leur problème, et côté rémois de Cédric Kipré. Si on ajoute à ça le fait que Joseph Okoumou est probablement out pour la fin de cette saison, eu égard à sa blessure à l'épaule, avec quelle défense le stade de Reims va partir à Lens vendredi, Pierre?
Mauric Banet et Malcolm Yang.
Ouf, tu prends des risques. Ok.
Mais ça fait... t'arrive, Pierre, ce soir, t'as
Parce que notre cher Suédois est le seul défenseur central de formation qu'il y avait sur le banc et que Mauric Banet, depuis qu'il est arrivé, il dépanne en défenseur central.
Sachant qu'il sera là contre Lens, pas à Toulouse, mais c'est
pas un t'as fait beaucoup de mal, Pierre.
Ah non, mais c'est simplement.
C'est sûr qu'il est en stage à RJR, il a changé.
Parce que sinon, tu veux mettre qui?
La question.
Je fais le travail de Julien, mais pardon, mais.
Vas-y. J'allais pas dire que ça sera mieux, mais. le petit Sanguy, il revient ou pas?
En tout cas, il est sélectionnable.
Donc, s'il est en état de jouer un match, je mets le petit Sanguy. Sinon, je mets.
Sanguy Banet, donc.
Sanguy Banet, ou alors Kone Banet, Amadou.
Ok, très bien. Et toi, Antoine? Oui.
Ou alors, je pense que Sekine peut dépanner.
Dans l'axe, tu mets Buta.
Je mets Buta à droite. De toute façon, je mets Buta à droite. Sekine, il manque quelque chose, je trouve. Je mets Sekine Bané.
Antoine.
On avait une théorie un petit peu fourbe avec Pierre en début d'émission, c'était d'avoir une doublette sur les ailes, entre guillemets. Trois défenseurs centraux, mais tu mets un défenseur gauche, un défenseur droit qui vont être un peu plus sur les côtés, et devant, tu rajoutes une deuxième aile. Exemple, un Buta Sekine, et de l'autre côté, un Sanguy
Hakimi,
merci. Et voilà.
Mais tu joues à quoi? Tu joues à 5 alors?
Une sorte de 3-2-3-1, 3-2-3-2.
Il manque un joueur dans ton
3-2-3-2. 3-2-3-2. Bah quoi? Ça existe très bien. Alors je vois pas le stade de Reims
produire. Il est 22h15 sur RJR.
3-2-3-2,
c'est bon. Après j'étais d'accord avec toi sur les joueurs, mais peut-être pas sur la manière de les faire jouer.
Après ça dépend comment tu modifies ton milieu de terrain. Tu peux faire un 3-2-2-3 avec des ailiers à but, mais c'est crédible.
Bon, on a perdu pas les avec le derniers Reims, auditeurs ça. Qui nous restaient.
Surtout dans le peu de temps d'adaptation, c'est vrai que.
Et puis t'as pas les joueurs pour.
T'as pas vraiment les bons profils au milieu de terrain.
Ah, mais donc sinon on fait quoi à Lens?
On gagne ou pas? Un point déjà, c'est bien.
Je pense que. Alors, il faut savoir que Lens contre Saint-Etienne était particulièrement mauvais. Hein.
Ouais.
Particulièrement bon contre Reims.
On est mauvais à Bollard.
Il faut être ambitieux.
Moi, je pense qu'on peut aller chercher quelque chose.
C'est Louis Stilco en plus.
Deux choses. Lens n'est pas bon en ce moment. Et il est. Il y a un adage qui veut qu'on ne gagne jamais deux matchs de suite à domicile.
Oui, et puis il y a l'adage aussi qui dit que si on pouvait mettre une petite.
Attention.
Mais l'émission est finie ou pas?
Ah bah, elle va se terminer là.
Si on pouvait mettre une petite carotte à Will Steel, moi ça me ferait bien plaisir.
Et je pense que c'est une belle conclusion.
Généralement, on gagne jamais à Bollard. Hein. Si je peux me permettre de casser un peu l'ambiance.
Et surtout,
si on avait gagné quand on était monté en la saison de Ligue 2, non? On n'avait pas gagné le premier match de la saison là-bas, un truc comme ça?
Je me souviens plus, mais il y a eu des 4
en Ligue 2, on les a battus.
Oui, quand on a été champion, on les a battus à Bollard.
Ouais,
mais en Ligue 1, jamais.
En Ligue 1, jamais.
4, il y a eu une fois où on a joué.
Non, mais ça serait bien, là. Alors, ça serait vraiment bien.
Et ben voilà, on termine là-dessus. Une petite session pronostique, ça fait jamais de mal dans, dans le Talk de Sport Club. 20h passées de 5 minutes, on est donc en retard. Et comme on est souvent en retard dans la deuxième heure, je ne vous dis pas à quelle heure on va finir ce soir. Dans quelques instants, on va parler patinage artistique et triathlon avec Adam Fouchal pour la partie triathlon et Malika Tahir, la coach, entre autres, de Laurine Schied, en patinage artistique. Je vous rappelle le jeu, jeu@rjradio.fr pour tenter de gagner vos invitations pour la rencontre entre le Stade de Reims et Toulouse. Je vous promets, il y aura de l'émotion aussi. Et j'espère qu'il n'y aura pas de vol. Laurent, merci.
Merci à toi, merci
Antoine,
à tout le monde.
Pierre également.
Merci, un plaisir.
Je vous rappelle, malheureusement, et on en est désolé, pas d'émission la semaine prochaine. Nous aussi, on s'offre un petit peu de repos, de congé, et il faut qu'on remette un petit peu notre cœur à flot, parce que là, au niveau cardiaque, c'est chaud quand même.
Vous
l'avez compris aujourd'hui. Mais du coup, on se retrouve dans 15 jours, combien même ce sera le lundi de Pâques d'ailleurs. Il n'y a aucune logique à notre façon de travailler, mais on sera là le lundi de Pâques.
C'est
ce qui fait le charme de RGR.
C'est vrai que tu n'avais pas réfléchi, mais effectivement.
C'est ce qui fait le charme de cette émission.
Si encore on était payé pour y avoir un avantage, mais là c'est pas le cas.
Et puis vu le prix du chocolat, j'ai envie de te dire, t'en auras pas beaucoup. 20h passées de 6 minutes. Les promos, un peu de musique, le temps de faire la transition. Et on revient juste après pour la dernière heure. A tout de suite.
RGR à Reims sur 106.1 et en DAB+.
Diabète, obésité, maladie du foie gras sont des affections chroniques. Associées à des pathologies du cœur, elles sont appelées maladies cardiométaboliques et sont une cause majeure de décès en France.
Face à cet enjeu de santé publique, les médecins et chercheurs de l'IHU ICAN, la Fondation Cardiométabolisme et Nutrition, se mobilisent.
Pour soutenir la recherche contre les maladies cardiométaboliques, faites un don. Rendez-vous sur le site ihuican.org. ihuican.org.
Salut, c'est JL. Retrouvez-moi tous les samedis, 18h-19h, sur RJR pour RJR Dance. RJR Dance, vous allez être accro à cette émission. Les dernières news house électro et les meilleurs classiques sont dans RJR Dance, chaque semaine sur RJR, le samedi, 18h-19h.
RJR, partenaire du Festival des Moissons Rock. Au programme Yo Delis, Dubbing, Marcel et son orchestre, Ludwig von Artung-Artig, La Petite Fumée, Morgan J, Volodia, Madame et bien d'autres. Le Festival des Moissons Rock, du 28 au 31 mai à Juvigny, près de Châlons en Champagne. Infos et réservations, points de vente habituels et moissonsrock.org.
Les artistes régionaux ont leur radio. RJR, MAO Cor Montreuil. Hola, yepa, viendes a la fiesta. La, 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 la. Lonken, scurry, dance, guns en la pompa. Chester Remington. Goodbye, Jose. Lucy Joy.
Je veux pas perdre du poids pour gagner des fololos. Je veux pas régner ma foi, loin de moi les fololos. Je veux accueillir la puissance qui fleurit au cœur du cou. La vie d'après les vents, tu peux revenir à la suite.
Les artistes régionaux ont leur radio. RJR.
RJR.
RJR, Radio Jeune Reims.
Travel
darling. There's always some may work. No, it's in my blood. I was born to roam. Where I go, there is no returning. I feel like a runaway. So I sing, hey, don't care what the weatherman's saying, hey, I'm not afraid of the storms that's raging. It's not mine, I gotta let it go. I've been a man, I gotta keep on walking, hey. I feel like a
Club.
Il n'a pas eu vrai débat.
Le talk.
J'ai trouvé que c'était un débat très intéressant.
Allez, on est de retour dans les studios de RJR. Soyez les bienvenus hein, si vous nous rejoignez. Place à la deuxième heure du talk de Sport Club. Fini le foot, fini les débats sans fin. Parce que quand les gars de la première heure ont une idée en tête, c'est difficile même dans un débat d'avoir des arguments qui peuvent leur faire changer d'avis. Bon, c'était le principe. On remettra de toute façon hein, en replay l'intégralité de cette émission dès demain sur l'ensemble de nos supports. Évidemment le web et le numérique, évidemment. Avant ça, donc, plaisir de vous retrouver pour une deuxième heure. On va récapituler les résultats, évidemment, dans quelques secondes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va appeler là, dans quelques secondes, également Malika Tahir, la coach, entre autres, de Lauryn Child, la 15e des derniers championnats du monde de patinage artistique. Et puis, on va parler duathlon, triathlon, enfin ça y est, enfin arrivé les beaux jours, la saison des sports là qui sortent un petit peu, qui font plein d'efforts, sont de retour. Et donc c'est le plaisir de retrouver quelqu'un qu'on connaît déjà, qu'on suit depuis tout jeune hein, dans cette émission et sur cette antenne. C'est Adam Fouchal du Stade de Reims Triathlon qui est déjà lui installé en studio et on a plaisir à l'accueillir. Salut Adam.
Bonsoir à tous.
Très heureux de te retrouver, toi qui as donc performé sur les championnats de France duathlon en montant sur le podium chez les U23. C'est vrai que les années passent et tu restes jeune, mais tu as commencé très très jeune hein, quand même. Hein, au Stade de Reims Triathlon, de toute façon, ça commence très jeune. On l'a vu là, même les minimes performent. Hein.
J'ai commencé il y a 7-8 ans, et puis toujours au même club, donc forcément, oui, ça commence à remonter un peu.
J'ai l'impression que je te connais depuis tout le temps. C'est presque qu'on t'a vu naître, en fait. Hein.
Je suis venu ici à 3-4 ans pour la première fois, et ma situation n'a pas plus changé que ça, donc
il y a des belles performances quand même. Tu le connais, hein, le programme ici, ça n'a pas changé. Alors, il y a moins de monde autour de nous, mais c'est les vacances en ce moment, et puis on salue notre Margot National ici dans cette émission qui est partie pour des nouvelles aventures professionnelles. On se souhaite de la retrouver dans un an parce qu'elle est partie pour une année à l'étranger de façon, donc je l'ai dit, professionnelle en Afrique. Et on espère la retrouver pour refaire de nouvelles interviews la saison prochaine. J'espère même que d'ici le cours de l'année, on fasse, parce qu'il n'y a qu'une heure de décalage horaire, des émissions en distanciel à l'époque où on pouvait déjà le faire quand elle était partie à l'époque en Europe de l'Est. Je ferme la parenthèse, on récapitule les résultats du week-end assez rapidement parce que le temps nous est compté ce soir et ensuite on rentre avec nos invités dans le vif du sujet.
Sport Club, l'actu sport.
T'as l'occasion de suivre un petit peu, je pose toujours la question, mais je sais que t'es très focus et que t'optimises un peu tout ce que tu peux en temps investi hein, aux alentours de ta discipline, Adam, mais est-ce que t'arrives à suivre ou même t'enthousiasmer pour d'autres disciplines ici à Reims particulièrement ?
J'ai toujours été un fervent supporter du foot, donc je vais de temps en temps au stade.
Bon, je sais pas si t'as entendu l'heure d'avant là qui t'est précédé, mais c'était chaud les débats. Hein.
Ah bah j'étais au stade hier et il y avait de quoi, mais bon.
Bon voilà, on s'est mis d'accord sur le mot frustration. C'est le mot qui caractérisait un peu tout le monde. Bon, il y avait pas que ça du reste, hein, il y avait pas mal de clubs. On rentre là quand même sur la dernière partie de la saison pour la majorité des disciplines. Et donc bah, c'est là où l'enjeu commence à devenir vraiment très important. J'allais dire enjeu relatif hein, pour le Champagne Basket dont le maintien est acquis en Pro B, et on se rend compte à mesure que les défaites s'enchaînent que les playoffs vont pas être très accessibles. Ce week-end c'était face à Boulazac, c'était vendredi soir même le match, défaite 98-81. On sait souvent que le Champagne Basket quand il joue contre un club entraîné par un de ses anciens entraîneurs, ça se passe toujours mal. Bon bah ça s'est vérifié. Thomas Andrieux, ancien coach du Champagne Basket, entraîneur désormais de Boulazac, a fait des misères contre le Champagne Basket qui est 15e avec 13 victoires et 18 défaites. On suit particulièrement le volley hein, en ce moment parce que ça y est, la saison régulière est terminée, c'est désormais les play-off. C'est historique hein, pour le Reims Volley 51, premier play-off de Ligue B de son histoire. Ça commence par les quarts de finale et alors la particularité de ce tour, c'est que ça se joue au meilleur des 5 matchs avec les deux premiers matchs qui se disputaient à domicile. Ça avait mal commencé vendredi après un revers assez sec d'ailleurs, 3-7 à 0 face à Saint-Jean-d'Illac. Ça s'est mieux passé hier après-midi, toujours à Renétis, puisque les Rémois se sont imposés 3-7 à 1. Place désormais à deux déplacements là-bas, en Gironde, et donc 3-4 figures. Soit les Rémois remportent les deux déplacements et ils se qualifient pour les demi-finales, soit ils les perdent et donc ils sont éliminés. Et si bah, le score est partagé avec deux victoires chacun, et bah, il y aura une belle à nouveau ici à Reims, puisqu'au classement de la saison régulière, c'est Reims qui était le mieux classé. Quelques mots de hand aussi rapidement, parce que ça s'est bien passé ce week-end et c'est assez rare pour le souligner. Pour le Reims Champagne Handball, les féminines hein, qui jouent en National 1 ont disputé la 18e journée. Victoire assez large d'ailleurs, 27 à 18 face à Utes. Bon, les Rémois sont encore assez loin au classement dernière, mais cette victoire leur permet de rester en vie et d'espérer potentiellement le maintien. Ce serait quand même un petit miracle, mais enfin tant que sportivement c'est mathématiquement possible, il faut pas le négliger. En revanche, Saint-Brice, là, le maintien est acquis depuis longtemps. On va leur souhaiter que la saison se termine pas de façon assez gâchée, puisque depuis le temps qu'ils sont officiellement maintenus, ils gagnent plus. Donc, petit relâchement à Saint-Brice. Ils ont perdu à Billy Montigny les avant-derniers cette semaine, ce week-end, 28 à 25. Maintien également acquis pour le tennis de table. Les pongistes rémois qui ont facilement battu Monaco 8 à 1. Ça les fait remonter, même c'est tellement dense le championnat. Quand on gagne un match, on monte très vite. Quand on en repère un, on repère très vite. Cette fois, ils sont deuxièmes au classement et donc le maintien est acquis. Quelques mots également de lutte parce que toi qui fais partie de la team Reims, tu dois peut-être connaître au moins de nom de Tourpal Ali Magamadov, qui a fait un temps, je sais pas s'il en fait encore partie parce qu'il est intégré à l'INSEP lui aussi maintenant, en tout cas le lutteur du CLR qui a été longtemps blessé, il revient là, Tourpal Ali Magamadov. Il se s'est bien passé pour son tournoi de rentrée, ça se passait à Sotteville-lès-Rouen, c'est un petit peu la capitale de la lutte en France, avec un tournoi international assez relevé faut le dire, mais qu'il a remporté assez facilement dans la catégorie des moins de 97 kilos. Donc bon, on est plutôt content pour le lutteur rémois. On reviendra sur le patinage artistique tout à l'heure. Juste un dernier mot en cyclisme pour donner des nouvelles de notre championne olympique, la rémoise Pauline Ferrand-Prévot, qui depuis la fin des Jeux, vous le savez, est repartie sur la route. Elle prépare le Tour de France. Tu dois suivre un petit peu l'actualité du cyclisme. Tu as peut-être vu la victoire de Tadej Pogacar hier sur le Tour des Flandres.
J'ai suivi ça, oui.
Voilà, bon, qui a remis tout le monde d'accord, comme s'il y avait une petite surprise au milieu de tout ça. Chez les filles, c'était assez serré, ça s'est joué au sprint et Pauline Ferrand-Prévot fait deux. Elle qui a pourtant chuté hein, à une quarantaine de kilomètres de la fin, qui a été réintégrée au groupe des favorites. Elle a même attaqué au même endroit que Pogacar d'ailleurs, à 18-20 kilomètres de la fin, là dans l'avant-dernière difficulté. Bon, elle, pour le coup, elle ne s'est pas baladée. Elle a été reprise par le groupe des favorites et bah, c'est la championne du monde, Lotte Kopecky, qui s'est imposée au sprint. Pauline Ferrand-Prévot qui fait deux, et c'est plutôt de bon augure quand même à quelques semaines maintenant, et encore un peu de temps avant cet été, le Tour de France féminin. On aura l'occasion d'en reparler. 20h passées de 20 minutes, tous les résultats vous les retrouvez sur notre site internet sportclub-reims.fr. Le temps d'écouter Gomard et d'appeler Malika Tahir, et on revient juste après, c'est promis.
Comme à chaque fois tu voudrais que je m'écrase, t'aimerais que je te dise que c'est pas grave encore. Faut jamais être soi, jamais trop bizarre, faut jamais le premier soir, jamais faire d'histoire. Je dois croire en moi-même car personne ne va le faire à ma place. Encore un cocktail ce soir, je crois que je vais boire la tasse. Je sais pas où ça mène, mais cette vie c'est la mienne. Et j'ai décidé qu'aujourd'hui je dis non. J'ai trop dit oui, aujourd'hui je dis non. C'est fini d'être gentil, d'être con. Tant pis si j'ai des problèmes, tant pis si c'est pas mignon. Peut-être qu'hier j'aurais dit oui, mais aujourd'hui je dis non. J'ai trop dit oui, aujourd'hui je dis non. C'est fini d'être gentil, d'être con. Pour les amours, les emmerdes, cette fois j'ai la solution. Tous les autres jours j'aurais dit oui, mais aujourd'hui je dis non. Toujours avoir peur quand je rentre tard, me faire emmerder par un con et lui sourire encore. Devoir faire attention du matin, cette fois j'en ai marre, c'est plus la même histoire. J'avais peur d'être moi-même tellement que je me suis noyée dans la masse. J'étais trop transparente pour pouvoir me regarder dans la glace. Mais cette vie c'est la mienne, ce sera plus jamais la tienne. J'ai décidé qu'aujourd'hui je dis non. J'ai trop dit oui, aujourd'hui je dis non. C'est fini d'être gentil, d'être con. Tant pis si j'ai des problèmes, tant pis si c'est pas mignon. Peut-être qu'hier j'aurais dit oui, mais aujourd'hui je dis non. J'ai trop dit oui, aujourd'hui je dis non. C'est fini d'être gentil, d'être con. Pour les amours, les emmerdes, cette fois j'ai la solution. Tous les autres jours j'aurais dit oui, mais aujourd'hui je dis non.
Sport Club, l'invité.
On vient d'écouter Gomard à l'instant, c'était non sur RJR, non mais oui quand même, vous êtes bien sur RJR, vous écoutez le Talk de Sport Club, on est ensemble jusqu'à 21h avec moi en studio Adam Fouchal, le triathlète rémois, mais aussi par téléphone, et c'est un plaisir de la retrouver après une sacrée saison encore qu'elle a fait avec plusieurs de ses athlètes. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Laurine Schild, mais c'est pas la seule, c'est une tête d'affiche. Malika Tahir nous fait le plaisir de nous accorder quelques minutes ce soir par téléphone. Salut Malika.
Eh bien, bonsoir Julien.
Plaisir de t'accueillir évidemment sur cette antenne. On s'était promis qu'à un moment, il fallait qu'on fasse quand même un peu les bilans d'une saison hivernale qui a encore été riche hein, cet hiver, Malika.
Oui, oui, oui. Eh bien, écoute, tous les objectifs qu'on s'est fixés cette saison, on a réussi à les atteindre. Donc, on va dire que c'est une belle saison.
Bah ouais, alors parlons-en évidemment. Alors déjà, elle s'est terminée, je pense que toi, tu n'y étais pas, mais par les championnats de France des clubs, hein, avec le club de patinage artistique de Reims, qui s'est bien passé, hein, parce que, alors, il n'y avait pas Laurine, mais il y avait Eve, il y avait Gianni, qui sont les autres, on va dire, têtes d'affiche du CEPAR, et qui ont performé sans énormément de surprises, mais enfin, c'est toujours difficile dans un cadre un peu particulier de répondre présent avec peut-être parfois la crainte d'un éventuel relâchement. Enfin, je sais pas comment toi tu vois ça.
Eh ben, écoute, cette année c'est la première fois qu'on joue pas le challenge parce que on n'avait pas de patineur de troisième division à présenter. Donc en fait, notre objectif c'était que la deuxième division, notre équipe de deuxième division se comporte correctement et soit sélectionnée sur ces championnats de France des clubs, ce qui a été le cas. Et puis l'objectif, c'était de gagner en première division, ce qui a été le cas. Donc ouais, on est ravis de ce championnat de France des clubs.
Voilà, c'était à Courbevoie. Et effectivement, sur le total des je crois 26 clubs engagés, vous faites donc 8. Avec seulement 2 équipes engagées, c'est quand même une sacrée performance. Hein.
Un peu, ouais. On est content de ça.
Bah, ça montre que ça travaille. Alors, c'est vrai qu'on parle toujours de celles qui performent. On va revenir sur la saison et les derniers championnats du monde avec Laurine. On rappelle que tu reviens de Boston, là. Hein, petit fait. Voyage américain, toi qui as quand même sacrément beaucoup voyagé encore cette année. On peut dire aussi que ça pousse derrière quand même. Et c'est ce qui fait le succès du club de patinage artistique de Reims encore cette année sur ces championnats de France des clubs. C'est que derrière, il y a quand même des petites jeunes, garçons et filles d'ailleurs, qui poussent et qui peuvent peut-être se servir du modèle qu'ils ont un peu au-dessus d'eux.
Oui, et puis on a aussi Eve et Gianni qui ont été champions de France juniors dans leurs catégories respectives filles, garçons.
Oui, on les avait reçus. Ouais.
Voilà, qui ont participé au championnat du monde junior de façon très compétitive. Ils ont fait leur boulot, les autres étaient meilleurs, mais l'objectif qu'on leur a fixé en tous les cas pour cette année, ils l'ont atteint. Donc oui, les plus jeunes du club peuvent se référer tant à Eve et Gianni qu'à Laurine qui est sur le cursus senior cette année. Quoi.
Ça fonctionne, ça, de se dire « Ah, j'ai envie de faire un peu comme les plus grands, eux, ils y arrivent, il n'y a pas de raison que moi, j'y arrive pas. » Et bon, j'ai compris qu'il fallait travailler pour ça, donc je vais me donner du mal pour que ça marche aussi pour moi.
Oui, alors après, je te cache pas que... qui est plus difficile dans les générations qui arrivent, c'est de donner peut-être plus l'envie aux parents de suivre qu'aux enfants.
Ouais. C'est pas la première fois que j'ai ce genre de témoignage, je comprends ce que tu veux dire. Ouais.
Voilà, et en fait c'est ça qui aujourd'hui pèse un petit peu dans la balance, c'est que on se rend compte que les patineurs, tu vois, qui performent aujourd'hui et qui donc se sont investis depuis le plus jeune âge, en fait dans les générations actuelles c'est plus compliqué. Mais je pense que c'est pas compliqué vis-à-vis des enfants. Je pense
c'est de l'accompagnement.
Ouais, c'est ça. De se dire, j'ai contrainte de temps, plutôt que de partir en vacances, il faut que j'accompagne mon gamin pour qu'il s'entraîne. Enfin, les horaires tôt, les horaires tard. C'est plus ça, en fait, la problématique.
On peut expliquer, j'avais pas prévu de poser la question, mais c'est vrai que c'est intéressant et peut-être qu'il y a des gens que ça intéresse de l'autre côté de la radio, Malika. Alors, évidemment, les investissements en effort, tu viens de les expliquer, mais ça coûte aussi. C'est un budget aussi. Alors, évidemment, on parle de Laurine qui est staffée, qui est identifiée, qui est la meilleure de sa discipline aujourd'hui. Donc j'imagine qu'il y a un accompagnement. Mais quand on démarre comme ça, d'aller de patinoire en patinoire, qu'est-ce que ça représente sur une saison?
C'est sûr que c'est un coût financier énorme, parce que tu vois, même quand tu parles de Laurine, elle est accompagnée, bien sûr, avec des subventions, avec une convention établie avec la Fédération française des sports de glace, la MRP, la maison régionale de la performance qui nous accompagne et nous aide. Mais les parents, encore aujourd'hui, ont besoin de l'aider aussi financièrement. C'est-à-dire que ces subventions et sa convention ne suffisent pas. Après, chez les plus jeunes, nous, ce qui est un petit peu handicapant ici à Reims, c'est cette fermeture de patinoire au mois de mai et ouverture au mois de septembre, qui nous oblige à aller louer de la glace à l'extérieur. Et louer de la glace à l'extérieur, c'est vrai que ça tombe pas spécialement bien par rapport aux horaires scolaires. Donc c'est toute une organisation. Donc déjà des parents qui veuillent bien financer en plus pour l'évolution de leur gamin, mais aussi des parents qui veuillent bien que leurs enfants loupent l'école et rattrapent l'école chez eux. Ce qu'ont fait les autres générations. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus compliqué.
Ouais. Mais on comprend les enjeux. Hein. C'est intéressant, effectivement, ce témoignage, parce que ça permet effectivement à tout un chacun là qui nous écoute de comprendre ce que ça représente comme engagement et parfois même comme sacrifice, au quotidien.
Oui.
Il faut qu'on parle donc, parce que c'est l'actualité peut-être la plus chaude là chez nous, de ces championnats du monde qui ont été particulièrement réussis. En tout cas, tu parlais d'objectifs. Les enjeux étaient importants quand même. Hein. J'ai vu nos confrères qui ont échangé avec Laurine sur la satisfaction qu'elle avait et la pression que ça avait généré au préalable. Oui. Oui. Top 15. Alors ça, c'est quand même... moi, je trouve que... À Reims, on en a parlé, mais je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. On a une Française, et ici à Reims, une Rémoise, qui a fait 15e des championnats du monde de patinage artistique à un an des Jeux Olympiques.
Et puis qui ramène aussi ce qu'il faut savoir en
le
fait,
quota, ouais.
c'est que ce championnat du monde, en plus d'être un championnat du monde, était pour tous les athlètes du monde qualificatif pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que tu ramènes ou pas un ou des quotas pour ton pays. Donc c'est pour ça qu'il y avait un enjeu et un stress supplémentaire sur ces championnats du monde, c'est qu'il y avait aussi une qualification pour les Jeux Olympiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que en ce qui concerne la catégorie féminine, depuis 2012, on n'avait pas eu de quota sur les Jeux. C'est-à-dire que Laurine, aujourd'hui, en 2024, ramène un quota pour les Jeux en 2026, ce qui ne s'était pas vu depuis 2012. Ouais, voilà, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire pour nous, en tous les cas, notre pays. Quoi.
Ouais. Et alors maintenant, pour que les choses soient assez claires, le quota, c'est pour la France, c'est pas forcément pour Laurine à l'heure où on se parle. Hein.
Exactement. C'est-à-dire que Laurine a été qualifiée pour les championnats du monde. Elle a fait son boulot et de façon vraiment honorable là-bas, parce que les 15 premières qui sont devant,
c'est fort, hein.
Une très bonne patineuse.
Ouais, hein, c'est fort. Pas,
on parle vraiment de très très haut niveau.
Mais même derrière, c'est fort, faut le dire. Elle fait partie des très fortes.
Même derrière. Elle fait partie des très fortes patineuses. Bah aujourd'hui, elle est la 15e meilleure mondiale. Donc,
bah oui, voilà.
Donc oui, c'est quand même déjà du lourd. Et c'est vrai que aujourd'hui, elle permet à la France d'avoir un quota pour ses Jeux Olympiques, mais ce quota ne lui revient pas directement. C'est-à-dire que toute la saison prochaine, elle devra montrer que c'est elle qui doit représenter la France sur les Jeux.
Alors, bon, évidemment, ça va générer une autre pression pour la saison olympique qui se prépare, mais moi, à l'entendre chez nos confrères, des fois j'échange aussi avec elle un peu par les réseaux, toi tu la connais parce que j'allais dire presque tu vis avec elle, Malika, j'ai l'impression qu'elle a atteint aujourd'hui un degré de maturité, elle a 20 ans, Laurine, un degré de maturité, j'allais dire à toute échelle, c'est-à-dire artistiquement, enfin j'ai envie de dire sportivement, mais aussi dans son approche d'une grande compétition. Et j'imagine que les deux premiers championnats du monde, parce que là c'était ses troisièmes, pour qu'on l'explique aux auditrices, auditeurs, ont permis ça aussi. Donc j'ai envie de dire, mais là je suis très chauvin en disant ça, Malika, j'imagine que tu vas pas me contredire, la logique, la suite logique de l'histoire, c'est quand même Milan Cortina d'Ampezzo, quoi.
Je l'espère pour elle, parce que c'est son rêve et que c'est son objectif, et que je veux vraiment l'accompagner dans ce rêve de femme, de jeune femme, de sportive. Enfin, ça me tient à cœur, et ça me tient d'autant plus à cœur que je la connais depuis qu'elle a 4 ans. Donc je pense que cette année lui aura servi encore plus que les autres années, parce que cette année, Laurine, depuis le mois d'août, elle s'est mis une pression énorme pour justement être qualifiée sur ces championnats du monde, pour pouvoir aller chercher ce quota pour la France, même si elle savait qu'en allant chercher ce quota pour la France, il lui était pas rétribué directement. Mmh. Mais elle avait cette envie de ramener ce quota pour la France. Et je pense que toute cette année, avec des doutes, avec des petites blessures, ça aura été très constructif pour elle. et je pense qu'elle en sera encore plus forte la saison prochaine.
Bah, souhaitons-lui et on vous le souhaite, hein, parce que effectivement, c'est une équipe, hein, que vous formez tous, toutes, les chorégraphes, etc. Et donc, c'est l'occasion de féliciter tout le monde au passage. Et puis, finalement, c'est assez étonnant parce que, en regardant ça peut-être d'un peu plus loin, nous, on a l'impression que c'est une année où elle a eu, hors blessure, hors tout ça, le plus de régularité finalement à haute intensité. Est-ce que je me trompe?
Oui. Alors, il y a eu un petit passage à vide, on dira, sur le Grand Prix de France, c'est au mois de novembre, où là, elle aurait pu faire mieux. Elle s'est vite reprise sur le deuxième Grand Prix qu'il y a eu derrière en Finlande. Après derrière, ça a été plus des choses à gérer au quotidien par rapport à l'entraînement, où elle s'est mise une telle pression et une telle exigence qu'elle s'accordait très peu le droit à l'erreur en fait. Et du coup, on sentait un énervement qui venait beaucoup plus facilement qu'habituellement. Mais je pense que tout ça lui aura permis de grandir.
Hyper intéressant. Il va falloir qu'on s'approche de la fin de l'interview qui est passionnante. On pourrait faire 3 heures avec toi, Malika, mais c'est toujours le cas et ça devient un problème.
C'est gentil.
J'ai deux questions. La première, parce que c'est toi qui es avec nous par téléphone ce soir, moi j'ai envie de savoir comment émotionnellement, toi, parce qu'on on s'intéresse toujours à l'athlète, on s'intéresse trop rarement, moi je trouve, aux gens qui les accompagnent. Comment tu vis émotionnellement les moments que tu partages avec elle? Moi j'ai envie de savoir. Alors, on a vu la vidéo, j'ai suivi évidemment la compétition. Ils sont en différé, tu m'en voudras pas?
Non, je t'en veux pas.
C'était assez tard. Mais j'ai vu effectivement les images et tu as toujours ce côté, en tout cas, qui donne l'impression d'être très rassurant, une sorte de deuxième maman. Mmh. Enfin, mais comment tu vis, toi, la performance quand elle est sur la glace? Parce que quand c'est comme ça, il n'y a pas de caméras qui sont rivées sur toi pour voir un peu comment tu réagis pendant sa prestation. Comment ça se passe pour toi, ces moments-là?
Et ben pourtant, dis-toi qu'il y a des dizaines de caméras qui sont risées sur moi et que c'est tu sais, t'as des comme des dress codes en fait, t'as des obligations d'entraîneur où en fait tu dois te positionner à tel endroit en bord de piste. Ben tu vois, il y a des choses.
Ah ouais, il y a une sorte de cahier des charges. Ouais, d'accord.
Ah oui, c'est quand même très c'est très carré, quoi.
Ouais, c'est codifié, fait, d'accord.
Ouais, c'est très codifié, très carré. Et alors ce que je peux te dire, c'est que j'essaye de pas faire ressortir mon stress. Donc déjà, je fais un travail sur moi-même pour que, au moment où on va aborder la compète, que l'athlète, que ce soit Laurine ou un autre, sente que à ce moment-là, j'ai confiance.
Ouais, je vois.
Pour lui donner, en tous les cas, à ce moment-là, c'est un peu le modèle américain, mais tu vas y arriver. Tu t'es préparé pour, allez, maintenant, va prendre plaisir. En fait, j'essaye toujours de leur expliquer, et ça depuis le plus jeune âge, que l'entraînement est dur, mais que le jour de la compète, c'est pour prendre plaisir. Après émotionnellement c'est énorme quand Laurine finit son programme court et que on sait que elle rentre dans les 24 premières. Bah on sait que le quota il est pas loin. Quand derrière elle fait son programme long, bah on sait qu'il faut qu'elle reste dans les 18 premières pour être sûre d'avoir un quota.
C'est ça, oui.
On sait que c'est fait quand les notes sortent et que elle reste première au moment où elle passe. Mmh. C'est très intense. Quand c'est mes patineurs qui patinent, ça passe très très vite. Par rapport au quand je regarde d'autres concurrents où ça peut être plus long.
Ah ouais, d'accord, c'est marrant ça.
Ça passe très vite. Je pense que à ce moment-là, je suis à fond avec eux. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai des montées d'adrénaline de dingue.
Mais c'est génial à vivre, non ? Enfin, c'est ouais. une certaine souffrance et en même temps, on cherche ouais. tous après ces moments. Ouais. Je sais que les préparateurs mentaux appellent ça la zone, vous savez, les moments où finalement on est tellement dans son truc, on a l'impression qu'il ne peut rien arriver quand ça se passe bien. Et bon, c'est des choses qu'on recherche un peu parfois, ouais.
C'est ça. Et puis Boston, c'était simplement extraordinaire. On était dans le Télé Garden, tu sais, où les Celtics jouent au basket.
Ah ouais, ouais.
Donc c'est une jauge à 15 000 personnes. Donc on avait connu ça au Japon, des jauges à 15 000 personnes, sauf que le public américain, et puis même l'organisation américaine, en fait, c'est beaucoup dans le show, c'est avec beaucoup de musique très forte, le public qui est en interaction très forte avec, avec l'athlète, et c'est, ça a été simplement extraordinaire à vivre.
Bon, et puis en plus, ils ont été servis, les Américains, hein, pour le coup, en plus. Hein.
Ouais, ils gagnent chez les filles, chez les garçons, en danse, donc non, ils ont été servis.
Bon, je sais que tu t'arrêtes pas vraiment, toi, Malika, donc là, il y a les stages, il y a la préparation de la prochaine saison qui, on l'a compris, ouais. est forte en enjeu et en stress aussi, j'imagine. Donc là, l'immédiat, là, on est au mois d'avril, qu'est-ce qui va se passer pour toi et pour l'équipe qui t'entoure et les jeunes ?
Alors, pour Laurine, déjà, elle part lundi prochain au World Team Trophy. Donc ça, c'est les championnats du monde par équipe, parce que bah pareil, à l'issue de ces championnats du monde, les 6 meilleures nations sont invitées par le Japon pour disputer les championnats du monde par équipe. Donc nous, on a fait 4e, donc c'est déjà super. On sait ce qu'on avait fait déjà il y a 2 ans. Enfin, on avait fait 5e, mais enfin, on avait déjà fait le World Team Trophy. Mm-hmm. Donc c'est déjà extraordinaire de se retrouver dans les 6 meilleures nations mondiales. Donc là, elle part au Japon pour ses championnats du monde par équipe. Et puis bah, ensuite, là, je suis en contact avec les chorégraphes pour les juniors, pour monter les nouveaux programmes des juniors. Et puis après, bah, ce sera les chorégraphes pour Laurine, pour les programmes seniors.
Bon, je vois qu'on n'a pas l'occasion de s'ennuyer vraiment, quoi.
Non. Bon. En fait, tu finis une saison, tu repars direct sur une nouvelle, quoi, en fait. Hein,
bah oui. C'est évidemment ce qu'on sait, mais c'est toujours bien de le verbaliser pour que les gens se rendent compte. Moi, je suis toujours très attaché depuis tant d'années, tu le sais, Malika, à essayer de valoriser l'engagement de la performance. Ça arrive pas en claquant des doigts, quoi. Hein, donc, c'est bien de montrer que. Ah oui, ça je te garantis, oui, ça, j'aurais préféré moi aussi. Hein. Malika, c'était passionnant, j'aurais bien voulu rester plus longtemps
Merci
avec
beaucoup.
Toi, mais l'heure
Merci
nous est
beaucoup.
Contrainte. Mais
t'en prie.
Dès qu'on a la possibilité de t'inviter en studio pour se voir et
avec
se faire
plaisir.
Une bise et parler patinage, c'est avec plaisir, hein, Malika. Hein.
Avec grand plaisir.
On te souhaite une belle soirée.
Bien, avec grand plaisir.
Et salut à toute l'équipe hein, derrière toi. Hein.
Merci, à très bientôt.
Salut Malika, il est 20h passées de 41 minutes. Est-ce que toi aussi, tu ressens ces petits moments de stress ou d'adrénaline avant une compétition? Alors, je ne sais pas si c'était le cas ce week-end à Mâcon, Adam, mais c'est vrai que le témoignage de Malika, il est hyper éloquent. Quoi. On a envie de vivre avec elle ces moments-là et ces émotions-là. Toi, tu les vis comment, ces moments un petit peu avant?
Il y a deux choses, il y a le avant et le après. Donc avant c'est plutôt tendu parce que on est focus dans ce qu'on veut faire et on a un objectif en tête. Et après par contre c'est là où on relâche et bon, ça dépend si ça se passe plus ou moins bien, mais si c'est bien en général le moment d'après est plutôt pas mal.
Alors si on te suit d'ailleurs toi particulièrement sur les réseaux ou ceux du club hein, le Stade de Reims Triathlon, on a vu quand même poindre sur ton visage et dans ton attitude une certaine satisfaction au moment où t'es monté sur le podium. C'était assez marrant à voir d'ailleurs dans les images qu'on a pu nous partager.
Bah en fait je suis monté une première fois.
Oui.
Et donc y a les plus jeunes qui avaient la course le lendemain qui sont venus voir mon podium et ont crié. Et donc le speaker a demandé est-ce qu'on recommence et là c'était un moment sympa avec une petite pensée pour tout le monde qui courait le lendemain.
Bon voilà, donc joli championnat de France de duathlon hein. Donc là on n'est pas encore sur le tri, ça se passait on l'a dit à Mâcon et donc j'ai envie de dire tu fais partie des têtes d'affiche aujourd'hui, t'en as l'habitude, tu nous disais tout à l'heure ça fait longtemps que t'es sur le circuit. On salue le reste de l'équipe, il y a eu un podium aussi avec les juniors hein, hier et puis enfin ce week-end et puis chez les juniors justement on salue les noms qu'on connaît déjà hein, Liv, Janson Alibali qu'on connaît, Erin Rose Poula, chez les tout jeunes là Marco Rolling qui fait 10 je crois donc voilà et puis il y a plein de places d'honneur qui arrivent derrière, il y a certainement peut-être aussi quelques petites frustrations, petites discussions, j'ai vu qu'il y a eu des chutes aussi ce week-end, bon ça fait partie du sport hein, malheureusement mais globalement collectivement et je me focuserai un peu sur toi après mais le week-end comment il a été débriefé finalement pour l'entité, le club
donc moi j'étais pas sur place le dimanche pour voir toutes les courses mais je les ai suivies à distance et je trouve que enfin, globalement, si on prend un résultat de groupe, on n'a peut-être jamais été aussi bon sur un championnat de France. Mmh. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Et bon, il y a eu deux chutes. J'espère qu'ils n'ont pas eu trop
ouais,
mal.
Oui, c'est ça, c'est pas de bobo. Ouais.
C'est souvent comme ça. Il y a globalement, si on prend en groupe, c'est très bon. Et après, si on prend point par point, il y a toujours deux, trois petites frustrations par-ci, par-là. Mais il faut savoir faire abstraction de ça.
Oui, on peut citer Romain Bénard qui fait 11, Lucie Daligo qui fait 14. Donc c'est vraiment, alors, chacun dans leur catégorie, hein, junior et cadette pour Lucie, je crois. Vraiment, il y a quand même une sacrée densité. Déjà, quelle valeur ça a pour vous, là, les triathlètes, les championnats de France de duathlon comme ça dès le mois d'avril
Pour les jeunes donc de minime à junior ça permet d'établir déjà la première étape du championnat de France classement national jeune plutôt qui est un classement par points qui référence tous les jeunes qu'on fait un résultat sur les championnats de France de duathlon, de triathlon ou d'aquathlon et donc c'est la première étape de ce classement.
Et pour toi du coup?
Pour moi, c'était une première, une rentrée chez les grands, avec la course. Donc, je suis en espoir, mais on court avec les élites. Mm-hmm. Et c'était plus vraiment une première course dans cette catégorie et pour lancer la saison.
Alors, c'est vrai que tu l'as dit, c'est vrai qu'on dit 3, donc podium, bronze pour le U23. Tu fais 9 ou 10 au scratch?
10e chez les élites.
Donc, c'est costaud hein, quand même hein, pour démarrer. Explique-nous un petit peu, toi, comment tu l'as vécu. Alors, j'ai eu quelques détails, j'ai pas eu le temps de regarder tout parce que, comme j'ai pas tout suivi samedi et puis qu'hier il y avait le foot, j'ai récupéré les résultats tardivement. Mais explique-nous un petit peu comment tu l'as vécu et tu l'as construit surtout cette course.
C'était une course plutôt tactique sur la première partie et après la deuxième course à pied en duathlon c'est toujours à fond et puis sauf qui peut. Mais le premier 5 km à pied on était un gros groupe et je pense que le plus important était de rester placé pas trop en avant parce que j'en avais pas forcément les capacités mais juste ce qu'il fallait pour prendre le premier groupe à vélo. Et pareil en vélo essayer de faire le moins d'efforts possible tout en prenant aucun risque sur une chute ou un éventuel problème mécanique et après il fallait surtout être placé à la deuxième transition comme toutes les courses où maintenant en fait on se rend compte que la deuxième course à pied elle débute au moment où on descend du vélo.
Forcément, donc
c'était le plus important et de faire une bonne transition pour partir le plus vite possible sur le 2,5 km qui restait.
Tu parlais de stratégie quand on est sur une prise de repère hein, finalement tant dans ce que va donner dans tes capacités physiques la saison que la façon aussi de regarder un peu par rapport à la concurrence ce qu'on peut valoir à ce moment-là. Est-ce qu'il y a cette volonté de se donner à fond pour se dire ok c'est un premier jugement de paix on va dire ou alors on essaye d'éviter les bobos, on est vraiment sur de la recherche de sensations, de repères finalement.
La plupart du temps, quand je me mets sur une ligne de départ, c'est pour faire le meilleur résultat possible. Donc, c'est à fond. Et puis, on voit ce que ça donne. Et surtout que c'est un championnat de France, donc ça a une valeur quand même.
Évidemment. Oui, quand tu montes sur la boîte, c'est quand même satisfaisant. Ouais.
Bien sûr.
La préparation en amont, là, tu t'es focus sur des éléments en particulier. On t'a vu courir plusieurs fois. On voit pas forcément tout ce que tu fais, mais toi, tu t'es vraiment focus sur des éléments particuliers là, sur la préparation pour rentrer dans cette nouvelle catégorie.
Comme tous les ans, j'ai ajouté un peu plus d'entraînement parce que le corps fait que il est capable d'encaisser plus avec l'âge et puis les années d'expérience. Et il fallait de toute façon parce que je suis amené à courir sur des formats un peu plus longs cette année. Donc il fallait ça. Et après, Non, enfin, je suis resté sur ce qu'on savait faire et ça c'est, j'ai passé un très bon hiver, donc c'est plutôt encourageant.
Ouais, U23 pour toi, ça, alors, tu vas me dire, ça finit quoi, j'ai grandi, tu me diras, mais en termes de concurrence et de densité, on va dire, de compétition, parce que là, bah, ça va être encore plus costaud, ça l'était déjà jusqu'à maintenant, tu t'en es toujours plutôt globalement bien sorti. Est-ce que ça génère une attente ou une approche un peu différente pour toi?
Bah, quand j'étais chez Junior et que je regardais l'U23, je me disais que c'était vraiment un cap énorme. Et maintenant que j'y suis, en fait, c'est une continuation et c'est une continuité plutôt. Et on se retrouve à courir avec des gens beaucoup plus âgés parce qu'on court avec les élites et après le classement est différencié à la fin de la course. Mais finalement, c'est vraiment une continuité et j'ai presque envie de dire qu'on sent pas la différence, à part que le niveau il est bien plus élevé, la densité elle est bien plus élevée, mais ça change pas.
C'est le volume en fait qui change, parce que là on a affaire à des athlètes bah, qui sont costauds quoi, tout simplement. C'est ça en fait, c'est l'intensité qu'on y met qui fait la différence.
Vraiment le niveau et la densité des courses, c'est impressionnant. Je pense que à une minute du vainqueur hier, enfin samedi, je pense qu'il y avait facile 50-60 athlètes sous la minute derrière le premier. Donc c'est vraiment impressionnant la densité et bah le niveau qui monte toujours et toujours, et surtout qu'en France le niveau en triathlon il est,
enfin ça fait quelques années déjà,
ça
hein.
fait déjà ouais. quelques années, mais moi quand je suis arrivé dans le triathlon au tout début, enfin les triathlètes ils étaient moins bons que les nageurs, moins bons que les coureurs à pied, et maintenant ils sont quasiment aussi bons voire meilleurs sur certaines parties.
Il faut selon toi continuer de se spé vraiment au tri pour y performer, parce qu'on en voit quand même beaucoup qui, alors au départ peut-être sur une partie un peu loisir, pas forcément pour performer à très haut niveau, mais on voit de plus en plus ou de cyclistes ou de coureurs à pied qui vont chercher une sorte de deuxième vie dans le triathlon, parce qu'on va y chercher des sensations qui sont différentes aujourd'hui, ou simplement changer de discipline. Tu vois, je pense à Camille Tominé qui est cycliste et qui aujourd'hui court beaucoup et qui performe d'ailleurs souvent. Est-ce que tu as cette sensation là de se dire que finalement c'est la discipline recherchée en ce moment, et ce qui explique aussi la densité?
Bah, je pense que ce qu'amène le triathlon, c'est de la diversité des trois disciplines. Et ça permet de casser la routine, de faire tout le temps le même sport. Et c'est très en vogue quand même avec les médailles qu'il y a eu au JO. Donc
ouais, Paris a aidé là-dessus. Ouais. T'as suivi ça évidemment. Tu sens qu'il y a un engouement encore plus, toi, le triathlon. Alors moi, j'ai l'impression qu'il a toujours existé, parce que c'est vrai qu'on a été porté aussi ici par Vincent Louis au départ, etc. Mais il a laissé un bel héritage déjà. Et puis derrière, on voit qu'il y a effectivement toutes ces générations qui suivent. Chez les filles, c'est pareil. Donc, même post-JO, là, t'as l'impression qu'on upgrade encore d'un cran en France?
Bah, ça fait vraiment quelques années où il y a eu un travail de la fédération, de toutes les organisations, même juste une organisation de course locale, qui ont voulu mettre le triathlon à une place plus importante. Et ça marche plutôt bien, même on le voit sur les grands prix de triathlon par équipe, et où ça a été racheté par un sponsor, et ça fait que l'organisation a doublé de volume, il y a beaucoup plus de monde sur les bords des routes, et même pour les athlètes c'est super cool de vivre ça.
Et toi donc à ce titre là au milieu de tout ça, déjà pour cette année là 2025, sur quelles ambitions tu te bases toi aujourd'hui? Est-ce que tu vas chercher à exister au milieu de cette concurrence, ou alors tu veux simplement personnellement progresser parce que tu arrives dans une catégorie où il va y avoir des matchs quand même importants? Donc comment tu abordes cette année 2025 finalement?
Bah, moi j'y vais sans savoir où je vais, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre en termes de résultats face à des concurrents étrangers, par exemple sur des coupes d'Europe, mais je pense être capable de faire des résultats plutôt corrects, j'ai des objectifs de place à réaliser sur chaque course, mais je pense que j'ai eu une belle progression cet hiver, et encore là je l'ai vu sur les France de duathlon. Donc j'ai des places précises selon, en fait la Fédé nous guide là-dessus, c'est pareil en fait, tout au long de nos années jeunes et dès qu'on éclot en U23, la Fédé met en, entre guillemets, des barèmes de place et ça permet de nous jauger à peu près de qu'est-ce qu'on devrait faire, dans quel résultat je dois avoir dans 3 ans par exemple ou dans 5 ans, et c'est assez intéressant.
Et est-ce que ça se fait un peu comme un peu en athlétisme où on essaye d'avoir un programme quand même avec des dates qui sont spécifiques et forcément à chaque date un objectif qui est propre en fait?
Bah, le calendrier, il est fait en dès que le calendrier international des courses internationales il est sorti. Parce que en fait, le calendrier est fait quasiment dans la foulée.
C'est impossible de participer à tout en termes de récupération, c'est ingérable.
Ouais. Bah, surtout qu'on est amené à faire des déplacements de plus en plus longs. Et il y a la fatigue générée par la course, mais il y a aussi la fatigue générée par l'événement et le déplacement. Et je pense qu'elle est même parfois plus importante que la course en elle-même. Donc au final. Plus on grimpe dans les catégories, moins on est amené à courir sur l'année, mais sur des événements de plus en plus gros par contre.
Ouais, et sur lesquels il faut moins se rater du coup par la force des choses. C'est vrai que c'est un sujet qu'on abordait, alors plus sur le côté investissement financier, organisationnel, mais sur le point de vue purement athlétique, récupération, aujourd'hui t'es organisé de façon à optimiser tout ça, parce qu'on dit souvent que le diable se cache dans les détails et... à ce niveau-là auquel tu arrives aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est des détails qui vont commencer à compter, encore plus qu'avant.
Bah, je pense qu'on a plutôt une bonne école dans le triathlon en général et à Reims en particulier, et où tout est optimisé. Je vais dormir, je pense que je suis le premier endormi avant tout le monde, et enfin, on dort tôt, on mange bien, on essaie de récupérer le mieux possible, et enfin, quelque part, quand j'ai envie de faire un truc, aller au cinéma ou aller faire une activité, n'importe quoi, je pense avant à quel impact ça peut avoir sur ma performance.
Ah ouais, c'est fou ça.
Avant d'aller faire n'importe quoi. Et par exemple, je m'autorise pas d'aller faire un foot ou des trucs comme ça juste pour le risque de blessure, mais et ça c'est cadencé sur des périodes où je vais avoir une compétition dans un mois, bah je vais faire plus attention. Après il y a des périodes de récupération et celles-ci aussi sont importantes où faut lâcher prise complètement, mais
ouais.
faut savoir cadrer à certains moments et relâcher à certains moments, c'est peut-être ça le plus dur, mais
c'est l'équilibre.
C'est toujours ça, c'est l'équilibre, et il faut même avoir un équilibre dans la vie d'à côté, faire autre chose que du triathlon, mais faut trouver un équilibre, et quand on est bien, ça se passe très bien.
Et là aujourd'hui tu arrives à être assez libéré, assez parce que c'est difficile de le conscientiser de ça, de dire j'ai envie de regarder une série mais faut pas que je me couche trop tard parce que dans mes heures de sommeil c'est important, j'ai les copains qui vont faire un basket sur le City Stade à côté, faudrait pas parce que imagine je me pète à quelque chose, etc. Bon, c'est quelque chose qui est conscientisé, ou alors en fait c'est tellement intégré aujourd'hui parce que ça fait des années que tu travailles aussi dans ce sens-là, et puis parce que tu as des objectifs qui te tiennent à cœur évidemment, que finalement pas de problème quoi.
Bah franchement pour moi ça fait tellement d'années que c'est venu au fur et à mesure. Je pense que l'âge aussi fait que on y pense de plus en plus, mais moi c'est complètement naturel. Je sais ce que j'ai envie de faire, je sais pourquoi je le fais, et c'est complètement naturel de penser de cette manière.
Et quand tu coupes, tu fais quoi alors? Du coup, tu arrives quand même à profiter un petit peu. Alors là,
par contre, dans
les choses qui sont autorisées à dire à la radio.
Non, quand je coupe, faut que je coupe complet. D'ailleurs, c'est pas souvent, c'est très rare. Mais ouais, quand je coupe, je fais ce que je veux. Je vais jouer au foot sur la plage, là ouais. J'y pense pas. Là.
Et même au niveau alimentaire, on profite
Oui, bon après, oui quand même.
On peut se le dire. La suite, donc là, on n'en est qu'au début, donc comment tu vas concrètement articuler les prochaines semaines, très concrètement pour les gens qui te suivent et qui nous écoutent?
D'ici un petit mois, il y aura les tests équipe de France U23 à Cannes. Donc c'est le premier week-end de mai, et après courant mai-juin il y aura des déplacements sur des coupes d'Europe. C'est pas encore défini parce que l'accès sur ces compétitions il est assez particulier, et au final on sait si on court sur la course 3 ou 4 semaines avant la course seulement.
Ouais.
Donc, mais ce sera articulé comme ça.
Les critères ont pas changé là sur les U23 par rapport aux catégories précédentes. Comment ça se passe d'ailleurs pour les sélections?
En fait il y a des barèmes très particuliers où on doit avoir fait telle place ou telle place, enfin telle place au championnat de France, ou être sur liste ministérielle pour pouvoir accéder à certaines courses. Et c'est remis à zéro chaque année, Donc moi, avec mes résultats de l'an dernier, je peux m'inscrire sur certaines courses. Et après ça aussi, donc la fédération accepte l'inscription, mais derrière, il y a le ranking mondial qui fait que, comme au tennis par exemple, on rentre sur un tournoi, bah là nous on rentre sur une course plus ou moins, si on est plus ou moins bien classé au ranking mondial.
Bon voilà, puis l'idée c'est de monter hein, petit à petit, et évidemment, et le chemin est encore important, mais il y a déjà un joli parcours de réaliser. Tu mesures toi finalement, là tout à l'heure on se disait de façon un peu rigolote, mais finalement c'est pas si anodin que ça, que le chemin que t'as parcouru depuis le début, ça t'arrive parfois de regarder un peu dans le rétro, ou finalement c'est presque dangereux et le but c'est quand même de regarder devant?
Non, quand on sur la route du retour, avec mon père, on calculait les places que j'avais fait sur les championnats de France jeunes. Et c'était intéressant de voir qu'au final, j'ai toujours été plus ou moins là, à des places plus ou moins bonnes. Mais il y a toujours eu du progrès et c'était le plus important. Et deux fois, c'est drôle de repenser à comment je me suis mis au triathlon. Et je me rappelle encore de mon premier entraînement où j'ai couru. Et quand j'y repense, c'est assez rigolo de se dire aujourd'hui, je me serais trouvé ridicule, quoi.
Ah ouais.
Ah oui.
Ah oui, t'as un regard très très critique sur ton parcours finalement.
Bah,
ou d'une certaine lucidité, je sais pas.
Ouais, je sais pas. Je commençais, j'avais même pas de basket.
Fallait commencer.
J'allais avec un sweat, j'allais courir comme ça.
Mais
oui, il faut.
Mais c'est souvent comme ça que ça commence hein, l'histoire. Ouais.
Ouais.
Et inversement, il y a un moment où tu te fixes une limite. Soit dans l'investissement que tout ça génère en temps, j'allais dire en sacrifice, j'ai pas l'impression que c'en soit parce que finalement c'est quelque chose d'intégré pour toi, ou en âge, où tu te dis bon voilà, il faut que je prépare aussi quelque chose à côté, ou quand ça marche pas comme prévu, enfin, tout ça est pensé, c'est-à-dire que tu te fixes des limites quand même dans ton investissement.